Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
On continue à vous accompagner dans ce monde de la gestion de patrimoine et on s'intéresse bien sûr au marché. Pour ce faire, Sandrine Covin est avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être présente sur Radio Patrimoine, au cœur de patrimoine, directrice de la gestion collective dotée à capital. Difficile de parler marché en ce moment sans parler de banque centrale. C'est vrai qu'on aurait pu aussi gloser sur les niveaux parfois très élevés de nos indices, mais nos banques ont encore une fois pris le devant de la scène. Traditionnellement, le schéma est assez simple. C'est la Fed qui tire le premier ou la première et c'est la BCE qui embraye. Sauf que cette fois-ci, il semblerait qu'on veuille prendre l'initiative. Quel est votre sentiment de voir comme ça la BCE qui s'émancipe ?
Eh ben, ce serait la première fois.
Ce serait historique.
Exactement, historique. Mais après, il y a un contexte qui explique tout ça. Parce que quand on regarde les États-Unis, la situation aujourd'hui, elle est que l'économie, elle est très résiliente. On a un marché de l'emploi qui se porte toujours très bien. Je regardais les chiffres du FMI, là, on a un ratio de postes vacants contre chômage de 2 aux États-Unis contre 1 en Europe. Donc, vous voyez là déjà la différence sur le marché du travail. Après, on voit que les chiffres sur la consommation et les chiffres d'inflation restent aussi élevés. On est autour de 3-3,5% sur l'inflation aux États-Unis. Et on n'est pas dans la cible de ce que vise la Fed. Ouais.
Même par si contre, elle a 2 objectifs, elle regarde quand même aussi beaucoup cette inflation.
Hein. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on avait commencé l'année en se disant au mois de mars, la Fed va démarrer et puis il va y avoir 3-4 baisses de taux. On est en avril et on voit qu'à chaque fois, c'est repoussé et qu'effectivement, il semblerait que la BCE prenne de l'émancipation. Mais encore une fois, il y a des raisons derrière tout ça. On a un contexte économique qui est totalement différent entre les États-Unis et l'Europe.
Alors justement, ce contexte économique, il a pas mal fait réagir, notamment Bruno Le Maire, qui, on le sait, doit présenter ses trajectoires budgétaires et qui nous a dit clairement ou presque que la baisse des taux, ça devrait insuffler un regain de croissance dès la fin de l'année. Et puis l'an prochain, il faut y croire, il a raison de penser qu'un coup de pouce, on va dire, de Christine Lagarde serait bénéfique pour son cas à lui.
Oui, en tout cas, les marchés l'attendent, parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que des investisseurs que vous connaissez disent qu'il faut revenir sur les small et mid cap, et force est de constater qu'elles ont du mal. Alors, elles ont quand même commencé à reprendre un peu de vigueur, mais on voit que la collecte sur cette classe d'actifs, elle est difficile. Il y a un problème de liquidité, toujours, et à mon avis, c'est ces histoires de problèmes de financement, parce qu'on sait qu'il y en a certaines qui vont avoir des difficultés pour se refinancer. Donc, une baisse des taux, oui, ça sera très, très favorable pour
le tissu économique et donc pour la croissance.
Exactement.
De l'autre côté, vous le disiez, c'est vrai que la Fed, on l'attendait, elle n'est pas là. Et pourtant, elle a un calendrier quand même serré, parce qu'on rappelle qu'il y a toute petite élection qui se profile aux États-Unis. Et qu'en parallèle, elle a une situation géopolitique qui est quand même compliquée. Vous me direz la BCE aussi, mais voilà. Quel peut être le calendrier de la Fed confronté à ces problèmes géopolitiques avec ces questions politiques ? Parce que quand on lit les commentaires de la Fed, on lit quasiment rien sur la géopolitique et on lit quasiment rien sur la politique tout court. On a l'impression qu'elle ne regarde que des indicateurs économiques, cette Fed.
Oui, ça manque un peu de transparence, mais je pense qu'ils ont peur de faire une erreur de politique monétaire et justement dans le cadre d'une année d'élection. Encore une fois, la géopolitique, je pense qu'elle touche beaucoup plus l'Europe que les États-Unis. Malheureusement, la géographie n'est pas en notre faveur. Je rappelle 2 points de tension aujourd'hui en géopolitique. Il y a l'Ukraine. Alors certes, ça fait 2 ans que ça dure, mais il n'empêche que la situation, elle est quand même toujours compliquée, même s'il n'y a pas de risque encore à ce stade de généralisation du conflit. Mais on sait que c'est problématique, nous, pour nos approvisionnements en énergie. Et le deuxième conflit, qui est au Proche-Orient, jusqu'à présent, est pas, effectivement, il n'y a pas d'escalade, ça reste mesuré. Il ne faudrait pas qu'il y ait une petite étincelle, parce que là, encore une fois, s'il y a un problème sur le marché du pétrole, ça va être surtout en Europe, je rappelle que les États-Unis sont quasiment autosuffisants aujourd'hui. Donc, Du côté géopolitique, j'ai pas le sentiment que les États-Unis, eux, aujourd'hui, la Fed, leur feuille de route, c'est de leur cible des 2%. Moi, j'ai un doute sur ce 2%. Ouais. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans le passé. Il y a eu toute une relocalisation de l'industrie post-Covid. Et ça a été une grande politique menée par Biden. Et cette relocalisation, elle fait qu'aujourd'hui, il y a une hausse des coûts de production. Donc, qui dit hausse des coûts de production, bah, forcément, ça vient données de l'inflation. Ça, c'est un premier point. Après, on voit aux États-Unis, comme je vous le disais, on a à un moment donné dit que l'excédent de cash des ménages, justement, qui avait été emmagasiné depuis le Covid, il allait s'amoindrir. Pour l'instant, ça ne se voit pas beaucoup, hein, parce que vous regardez les chiffres de consommation, ils restent extrêmement solides. American Express a publié ces chiffres, ils étaient encore très bons, illustrant le fait que bah, ça continue de consommer.
Dans ce contexte qu'on décrit depuis quelques minutes, Sandrine, qu'est-ce qui pourrait se passer du coup sur les marchés? Ça pourrait favoriser finalement notamment nos marchés européens, parce qu'on voit le CAC, on s'est presque pris à rêver des 9000, alors que pendant des années, on a eu du mal à rallier notre ce qui était notre sommet historique à l'époque. Comment est-ce que vous les voyez, nos marchés?
Alors, historiquement, c'est souvent les États-Unis hein, qui sont mieux positionnés. Maintenant, quand on regarde les valorisations aux États-Unis sont très élevées, même, je dirais, tendues. Et alors, c'est toujours pareil, hein, c'est disparate. Mais on a vu la semaine dernière quelque chose d'intéressant. Le S&P a presque baissé de 5%. C'était la plus forte baisse depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis un petit moment. Et là, effectivement, avec le contexte de détente sur les taux qui peut se faire dès le mois de juin en Europe, il peut effectivement y avoir une fenêtre de tir là, pour le marché européen qui se redresse.
Vous nous avez dit tout à l'heure un petit mot des petites et moyennes CAPI, enfin des petites et moyennes entreprises et de leur financement. Et c'est vrai que quand on regarde nos marchés, alors singulièrement en Europe, mais c'est vrai aussi sur d'autres cotes, on a une moindre valorisation de ces petites et moyennes CAPI qui pourtant ne sont pas non plus des inconnus. Hein. Il y a beaucoup de leaders mondiaux, etc. Ça veut dire que s'il y a cette baisse de taux, s'il y a tout ce qu'on s'est dit, il y a une capacité de rattrapage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, considérer les petites et moyennes CAPI, ça vous semble un pari pas complètement fou?
Non, je pense que c'est pas un pari fou. Alors, il faut continuer d'être sélectif, hein, toujours dans ses choix d'investissement, même s'il y a une détente et que le coût de financement va baisser, il restera quand même plus élevé que ce qu'il a été dans le passé. Et il me semble quand même qu'il faut se concentrer sur des sociétés aujourd'hui qui ont des business models solides, qui ont déjà une situation financière qui n'est pas trop tendue, qui ont des échéances de refinancement plus éloignées, plutôt que d'aller sur celles qui sont un peu aujourd'hui, entre guillemets, en mode survie. Mais il y a de très beaux dossiers aujourd'hui qui sont sous-valorisés et qui sont intéressants à regarder.
Ça veut dire que là, période de publication de résultats aussi qui a commencé, ce sont tous ces critères-là qu'il faut aller pêcher dans les publications, de regarder un petit peu le business model, l'endettement, etc., pour finalement faire son choix.
Alors, la situation financière d'un trimestre à l'autre, à moins que ce soit des gens qui mangent beaucoup de cash, en général, oui. Mais ce qui va être important de voir, c'est effectivement la top line, voir comment ça se passe du côté de la croissance. Et il y a de très belles boîtes dans les small et mid, pas que dans la tech, hein, parce qu'on cite souvent la tech, mais il y a des belles boîtes dans la santé.
Enlever ses œillères et arrêter de regarder les X magnifiques. Quoi, ouais,
exactement.
Ou les connexes.
Mais après, il y a des belles boîtes de tech en Europe qui sont très peu valorisées. Et effectivement, il faut regarder. Il y a différentes choses à regarder. Il y a la feuille de route sur ce qu'ils vont délivrer sur les prochaines années. Bien entendu, ce qu'ils vont délivrer à court terme, mais aussi ce qu'ils vont délivrer sur les prochaines années et la confiance qu'on peut avoir sur le management et sur le fait qu'ils ont déjà quand même un track record qui est là pour donner confiance. Mais je pense qu'effectivement, il y a des beaux dossiers aujourd'hui qui demandent aujourd'hui, vous avez des dossiers qui sont décotés de 30%, voire même plus de 30%. Ouais. C'est une opportunité d'achat aujourd'hui.
Et justement, pour reboucler sur nos mid and small, c'est parfois plus simple, même s'il y a moins de recherches, mais d'avoir accès aux dirigeants, à l'info. Et on connaît peut-être aussi même mieux ces boîtes de oui. proximité.
Ah oui, en tout cas, nous, pour professionnels de la gestion, on a effectivement des contacts privilégiés avec ces managements-là, des contacts réguliers. Ils sont obligés d'insuffler justement cette confiance dont je parlais. Et effectivement, par rapport à des gros groupes où tout est bien normé au niveau de la communication, et puis au final, vous apprenez rien de vraiment... Ça. Là, vous avez le potentiel d'aller dénicher ce qu'on appelle la pépite. Et c'est ce qui fait toute la différence dans un portefeuille aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sandrine. Sandrine
Merci, Covin. Cédric.
J'espère vous retrouver très vite
sur
Radio Patrimoine pour commenter ensemble cette vie des marchés et de la gestion. Merci d'être passé nous voir dans Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.